canon vide est là, c'est lui le grand vainqueur de la Coupe du Monde. Il peut dire à la ronde que chez lui, on est libre de jouer au ballon.
Mondial 78 sur un air de boycott, un documentaire d'Aurélie Luneau réalisé par Véronique Lamandour.
Susanna et José se meurent en prison, désespérant pour l'Argentine.
Voilà pour ce documentaire sur la Coupe du Monde 1978 et la tentative de boycott. Demain, nous reviendrons sur le boycott de l'Afrique du Sud pendant les années 60, 70, 80 et même le début des années 90. C'est le thème de toute la semaine de la Fabrique de l'Histoire.
France Culture, 10h. Les humanités. Mercredi, Métropolitain par François Chalin. Jeudi, Une vie, une œuvre par Mathieu Garrigou-Lagrange. Vendredi, Les Vendredis de la philosophie par François Noudelman. Aujourd'hui, Les Mardis littéraires par Pascal Casanova.
Littéraire aujourd'hui, mémoire, Bertrand Leclerc, Martine Sonnet, Romain Verger. Et aujourd'hui autour de la table, Bertrand Leclerc qui publie aux éditions Marencel Une guerre sans fin, Martine Sonnet pour Atelier 62 aux éditions Le temps qu'il fait, Jean-Baptiste Aran qui est quelquefois critique au Mardi et qui vient parler de ces deux livres, ainsi que Alain Nicolas, patron des pages littéraires de l'Humanité, et ils ont lu aussi un autre livre dont on parlera à la fin de l'émission, celui de Romain Verger, Grand ours, qui paraît chez Kidam Éditeur. Une guerre sans fin. C'est un roman étrange parce qu'on se dit en le lisant qu'il a plusieurs objets et qu'on n'est pas sûr de saisir le bon. Peut-être qu'on peut dire le point de départ de ce livre, c'est une commande ou disons une dramatique pour France Culture.
Il y a eu une dramatique pour France Culture, mais avant ça, il y a eu ce que j'ai appelé une sottie. C'est-à-dire un texte très court, une sorte de petite nouvelle, qui était déjà une commande d'ailleurs pour un volume collectif, et que j'avais fait un peu légèrement, un peu en m'amusant, d'où le terme de sottie, et où il se trouve que j'ai mis en place d'emblée ces personnages du Manchot, c'est-à-dire qui a perdu la main dans les Aurès, du jeune écrivain ambitieux qui l'écoute un peu trop et qui se fait de fait prendre la main. C'est-à-dire que au départ de ce livre, la question de la main est fondamentale. Qu'est-ce qui nous tient la main quand nous écrivons? Alors, à la suite de ça, il y a eu une opportunité d'écrire une fiction pour France Culture sur le thème de la manipulation. Et justement, prendre la main, la manipulation, j'ai repensé à cette sottie et je me suis décidé à la développer sous la forme d'une fiction. C'est à ce moment-là que, à proprement parler, je me suis emparé du sujet de la guerre d'Algérie, qui est donc vraiment second, que je croyais connaître un petit peu, que je connaissais vraiment très très mal. que j'ai pour beaucoup découvert, et j'ai plongé dans tous ces témoignages innombrables qu'on a sur la guerre d'Algérie, parce que je pense qu'il y a autant de traces écrites qu'il y a eu peu de paroles. Et à partir de ce moment-là, ce matériau, il fallait en faire quelque chose, à tel point que la pièce radio finie, le désir d'aller beaucoup plus loin, l'idée que je n'avais fait que poser quelque chose qui demandait à être déployé, s'est imposé. C'est imposé d'autant plus que ce matériau historique, avec non pas les mensonges, mais en tout cas les visions fausses de la guerre d'Algérie qui sont déployées depuis maintenant des années, tant en Algérie qu'en France, fonctionnait parfaitement bien avec la manipulation que j'avais mise en place. C'est-à-dire que si ce personnage qui manipule un jeune écrivain en lui racontant sa guerre peut le manipuler aussi aisément, c'est justement parce que la mémoire de la guerre d'Algérie est falsifiée, qu'elle est faussée, qu'elle est littéralement mal dite et d'une certaine façon maudite, c'est-à-dire qu'elle nous hante encore aujourd'hui. Donc c'est ça qui m'intéresse, c'était le aujourd'hui de cette mémoire. Voilà.
On peut dire, là, oui, on va venir à la guerre d'Algérie, qui est au fond, oui, l'objet apparent. Et vous insistiez sur la main. C'est vrai que la main, elle est présente, je dirais, de façon rhétorique, très souvent avec toutes ces expressions, prendre la main, tenir la main, ne pas y aller ou y aller de main morte, etc. Ce qui est toujours amusant quand il est question, enfin amusant entre guillemets, quand il est question d'un manchot. Et puis, il en est question à travers la manipulation ou les manigances, etc. Et donc, vous travaillez autour de cette main en transformant cette question, disons, c'est celle de... Vous le disiez tout de suite, qui écrit quand on écrit, qui tient la plume quand on écrit, qui a quelque chose à dire quand il écrit, etc.
Qui tient la main, qui manipule celui qui écrit à son insu le plus souvent. C'est-à-dire que, par exemple, la mémoire de la guerre d'Algérie est quelque chose qui, à mon avis, hante nos existences à notre insu. On ignore à quel point elle pèse encore aujourd'hui. La pièce radio sur le thème de la manipulation s'appelait « La main de papier ». Donc, ça reste vraiment, au bout du compte, la thématique la plus importante. Alors, pas pour le lecteur. Le lecteur, il fait évidemment ce qu'il veut avec ce fil qui court du début à la fin du livre. Mais pour moi, l'écrivant, ça restait la question principale.
Donc, c'est l'histoire de quelqu'un qui ne cesse de dire qu'il écrit une histoire qui n'est pas la sienne. Qui l'écrit pour quelqu'un d'autre, qui meurt au cours du livre, qui se suicide. Oui.
Une fois que j'ai dans la pièce radio, en fait, je sais pas si ça va être très clair ce que je vais essayer de dire, mais le personnage du narrateur du livre n'existait pas. C'est-à-dire que la pièce radio n'avait pas de narrateur, elle n'avait pour personnage que les personnages historiques de l'intrigue. Après, quand il s'est agi de développer ça sous forme d'un roman, je me suis évidemment posé beaucoup de questions sur le comment faire, et je dois constater que ici et maintenant, même si c'est au bout du compte, c'est pas de mon premier roman officiellement, mais c'est la première fois que j'écris quelque chose en face duquel j'assume pleinement ce terme de roman, puisqu'il y a des personnages qui sont entièrement fictifs, une intrigue qui l'est aussi. Et cela dit, moi, je ne me sens pas aujourd'hui en mesure, pour des tas de raisons théoriques aussi bien que personnelles, d'écrire un roman qui ne soit pas porté par un narrateur, c'est-à-dire où les voix des personnages ne passent pas par le filtre d'un narrateur. Il n'y a aucun personnage ne s'exprime sans que ça passe par le filtre du narrateur. Donc ce narrateur qui a surgi au moment où j'ai commencé à écrire le roman a évidemment donné sa forme au roman, puisque du coup toutes les voix, c'est un roman qui, je pense, est assez polyphonique, parce que le narrateur écoute beaucoup, en fait il reçoit beaucoup d'informations et il les traite.
Ah, ça y est, il s'arrête là. Allez-y, Alain Nicolas.
Oui, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un roman qui est fait qui a été réussi par ce jeune écrivain. On s'aperçoit que ce roman qui a été bien accueilli est totalement fallacieux dans son substrat historique, enfin tout ce qui est dans son référent de réalité, et que le roman qu'il n'arrive pas à faire, c'est celui qui porte justement la vérité de ce qui s'est réellement passé, et qui porte ce qui serait le dévoilement de la manipulation. Et aussi que tout cela mêle l'histoire avec un grand H, et puis la biographie de ce jeune homme, et en même temps de ses parents. Et c'est ça que je trouve assez réussi dans la façon dont c'est tressé dans le livre, et qui fait véritablement qu'on peut le lire, je dirais, comme un roman.
Oui, tout à fait. Encore une fois, cette intrigue fonctionne avec le matériau historique, c'est-à-dire que c'est ça qui m'a intéressé au bout du compte. Si je me suis lancé dans le roman, c'est d'une part parce que j'avais ce matériau historique pléthorique, alors que je maîtrise pas du tout, je suis pas historien, mais que j'avais accumulé, dévoré, oublié, et que je